Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, BFM Crypto, le club.
On va parler crypto, tiens, pendant une bonne vingtaine de minutes, en effet, c'est notre club quotidien. Pauline Armandet, bonjour Pauline.
Bonjour.
Notre journaliste crypto sur BFM Business et votre newsletter apparaître à 18h chaque lundi, dans un peu plus d'une heure, donc la newsletter BFM Crypto, elle est gratuite. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, vous qui nous suivez. Sébastien Gouspillot est avec nous aussi à distance aujourd'hui. Bonjour Sébastien.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver Sébastien depuis Nantes en direct, spécialiste du minage, cofondateur de Big Block Green Services. Vincent Bois avec nous aussi depuis IG. Bonjour Vincent.
Bonjour.
On voit les marchés extrêmement turbulés, perturbés de tous les côtés. Comment les cryptos se portent-elles en ce tout début de semaine, Vincent, alors que la plupart des devises chutent face au dollar, alors que les grands indices actions ont beaucoup souffert la semaine dernière? Quels signaux envoient le Bitcoin et l'Ether?
Alors les crypto-monnaies sont un peu comme le marché traditionnel actuellement qui tente de rebondir justement après une semaine un peu difficile, bien que le Bitcoin et les crypto-monnaies se tiennent toujours sur le même support, hein, qu'il faudra les casser pour voir une accélération, mais pour le moment c'est un maintien au-delà des 18 500 $, 18 600 $. Pour le moment, on n'a pas une confirmation d'un rebond sur le Bitcoin. Hein, il faudra aller chercher les 19 500, le dépassement, pour ensuite aller dépasser les 20 000. Un objectif qui peut être fixé sur les 20 700 $, qui peut être atteint si nous avons une poursuite de ce rebond. Attention, beaucoup d'informations sur le marché traditionnel cette semaine, beaucoup d'intervenants au niveau de la Fed, au niveau de la BCE, des chiffres sur l'inflation également en fin de semaine aux États-Unis. Donc, beaucoup d'inconnus pour le moment. Mais au niveau technique, le rebond semble s'amorcer. Confirmation au-delà des 19 500 pour moi, et aller chercher les 20 700. On reste malheureusement toujours dans une tendance baissière, donc attention en cas de retour ou justement d'échec, hein, à rebondir, eh bien les 18 800, 18 600 vont servir de support. Une cassure peut nous amener à une accélération baissière et peut-être aller chercher un nouveau plus bas annuel.
Ça, c'est le Bitcoin. Qu'en est-il d'Ether? Quels signaux voyez-vous sur le cours d'Ether en ce moment?
Alors, même type de données ou de facteurs, hein, que nous allons surveiller. Bien entendu, les deux crypto-monnaies sont assez liées, en tout cas le cours des deux crypto-monnaies. On a eu le rebond sur le support que l'on avait évoqué la semaine dernière, 1260-1280 $, qui pour le moment tient la tendance, permet de rebondir. On va aller chercher, si dans les mêmes conditions le rebond se poursuit un peu, les 1420 $, voire par la suite proche des 1490-1500. Mais selon moi, le rebond pourrait ne pas durer au-delà. Et donc, attention à cette cassure des 1280-1260 qui peuvent amener à une nouvelle accélération baissière sur l'Ether.
Vincent Bois en direct depuis IG avec nous. On rappelle que tous ces actifs restent extrêmement spéculatifs et volatiles et qu'il ne faut y investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. On le dit au quotidien et on le répète à chaque fois sur BFM Business. Pauline, et donc cette newsletter BFM Crypto apparaître à 18h chaque lundi. Et chaque lundi, il reste quoi, 1h19 avant de pouvoir découvrir le contenu de cette newsletter. Vous proposez, alors sur notre site BFM Crypto également, notre fil Twitter BFM Crypto auquel chacun peut s'abonner, vous proposez régulièrement un décryptage sur les différentes actualités et puis les grandes tendances de l'univers crypto. Et alors là, c'est une enquête que vous nous proposez sur les bitcoiners maximalistes français. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quels sont leurs réseaux? Non, plus sérieusement, vous avez cherché à comprendre les revendications et les réflexions des bitcoin maximalistes français.
Oui, tout à fait. Je voulais savoir en gros si les bitcoin maximalistes français étaient seulement des gros mangeurs de viande ou s'il y avait quand même quelque chose de profond derrière ce mouvement des bitcoin maximalistes. Et en fait, pour commencer l'enquête, j'avais appelé Jonathan Ercovici, qui est le patron de la société Stackinsat et qui est aussi organisateur de l'événement Surfing Bitcoin. Et en fait, il m'avait raconté qu'avant l'édition 2022, il avait réalisé un sondage pour savoir en fait quels étaient les profils qui allaient participer à l'édition. Et en fait, dans ce sondage, où en gros plus de 700 personnes ont répondu, on apprend qu'il y a 69% des participants qui se considèrent comme crypto-enthousiastes, 24,7% comme bitcoin maximalistes, et puis le reste comme des bitcoins curieux. Et donc en fait, c'est suite à ces chiffres que je me suis dit, non mais du coup, qui sont ces 24% de Bitcoin maximalistes? Et voilà, j'ai décidé un peu de mener l'enquête.
D'enquêter, Bitcoin maximaliste, ça signifie ce sont des gens qui pensent que dans les cryptos, hors de Bitcoin, point de salut, pour résumer les choses.
Voilà, en gros, c'est à peu près la définition qu'on peut en faire. Et c'est d'ailleurs Vitalik Buterin, qui est en fait le cofondateur de la blockchain Ethereum et de sa crypto-monnaie Ether, qui avait parlé pour la première fois en fait, de ce mouvement en 2014. Effectivement, c'est la définition qu'on peut en donner.
Bon, d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Comment réfléchissent-ils? Vous avez donc mené l'enquête auprès des Bitcoin maximalistes français. Quelles conclusions est-ce qu'on peut, on peut tirer de leur profil? Est-ce qu'on peut établir comme ça une forme de portrait robot du Bitcoin maximaliste français?
Alors déjà, au niveau de la définition des Bitcoin maximalistes, ce qui était assez étonnant, tout en étant aussi intéressant à traiter, c'est que quand on les appelle, et dans l'enquête, il y a 5-6 témoignages de ces membres, ils ont tous un peu une définition différente du Bitcoin maximalisme. En gros, effectivement, l'idée, c'est de défendre cette crypto-monnaie, mais il y a plusieurs définitions qu'on peut avoir qui seront à découvrir notamment dans cette enquête. Ce qui, quand même, peut rejoindre tous ces membres, c'est ce point vraiment commun de vouloir favoriser une adoption générale du Bitcoin face à ces autres crypto-monnaies qu'ils appellent comme altcoin ou encore shitcoin, de manière moins polie.
Ils se sentent investis d'une mission, ces Bitcoin maximalistes?
Ouais, il y en a certains qui se sentent investis d'une mission. Jonathan Ercovici m'expliquait notamment qu'à travers en fait différentes manières en fait d'investir le terrain, ils pouvaient aussi proposer cette adoption du Bitcoin. Il y a certains maximalistes français qui s'étaient rendus en Centrafrique cet été, puisque la Centrafrique en fait a adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Et c'est aussi sur place qu'ils veulent aussi promouvoir l'adoption de cette crypto-monnaie. D'ailleurs, Sébastien Gouspillou était, il me semble, en tout cas faisait partie de cette délégation de Français.
Oui, je crois qu'il fait partie des Bitcoin maximalistes. Il sera avec nous dans un instant, on va le rejoindre, Sébastien Gouspillou. Juste, les Bitcoin maximalistes auprès de qui vous avez donc enquêté, on peut se dire que c'est une organisation, ce sont des gens structurés, ou au contraire, on est sur des individus, et puis voilà, ils ont une passion commune qui s'appelle tout simplement Bitcoin.
Bah a priori, c'est pas un groupe structuré. C'est Yves de Monbin qui m'en parle aussi dans le cadre de l'enquête. Et ils expliquent que justement, ils se veulent pas structurés, en référence aussi à Bitcoin, qui ne veut pas établir de hiérarchie. On sait d'ailleurs pas qui est son ou ses fondateurs. Enfin voilà, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Donc le groupe ne se veut pas structurer. Ça les empêche pas de se réunir, de se retrouver. Voilà, autour de réunions et y compris de discuter à travers de nombreux messages sur des groupes privés ou autres, sur les réseaux sociaux.
Comment est-ce qu'on tombe dans le Bitcoin maximalisme? Alors présenté comme ça, tourné comme ça, ça fait un peu péjoratif.
Et ça fait un peu on tombe dans la secte.
Ouais, c'est ça. Alors comment devient-on, comment devient-on Bitcoin maximaliste, Pauline?
Alors, chaque témoignage aussi est différent, mais je vais en prendre trois. Par exemple, Gilles Cadignan, qui est très actif dans ce sujet, explique que lui, il est tombé dans le Bitcoin maximalisme en 2017, en fait, lorsqu'il y avait ce grand débat que beaucoup commencent à connaître, qui est le fork, en fait, de la crypto-monnaie Bitcoin, où, en gros, pour simplifier, les développeurs... Enfin, il y a eu une division au sein des développeurs. Certains voulaient modifier le protocole Bitcoin, d'autres voulaient pas le modifier. Et en fait, Gilles Cadignan a expliqué qu'au départ, il faisait partie de ceux qui voulaient modifier le protocole, en gros, augmenter la taille des blocs de Bitcoin. Et puis, il s'est ravisé en se disant non, je vais finalement faire partie du protocole qui ne veut pas modifier cette crypto-monnaie. C'est aussi donc pour ça qu'il a considéré le Bitcoin comme une crypto-monnaie particulière à ses yeux. Jonathan Ercovici, de son côté...
Autre grande figure des Bitcoin maximalistes.
Et qui, effectivement, voilà, est l'organisateur de Surfing Bitcoin, a expliqué de son côté que c'était quand il a vu tous ces projets de monnaie digitale de banque centrale arriver qu'il s'est dit, c'est des exemples qui, selon moi, voilà, renforcent aussi l'opposition de Bitcoin par rapport à ces initiatives de banque centrale. Ou encore Stéphanie Camélia Maachi, qui elle a expliqué qu'elle a rejoint cette communauté, cette famille bienveillante comme elle aime le dire, parce que dans aussi des périodes de bear market,
tiens, Bear Market lui a pas fait peur.
Non, en tout cas, la crypto-monnaie Bitcoin était considérée pour elle et pour les Bitcoin maximalistes, évidemment, comme plus solide dans cette période de bear market. On rappellera quand même que le Bitcoin a perdu 70% de sa valeur depuis novembre dernier. Donc voilà, tout est relatif.
Ce que vous nous apprenez aussi dans cette enquête passionnante, Pauline, à retrouver sur notre site BFM Crypto, également bien sûr notre fil Twitter BFM Crypto, ce que vous nous apprenez, c'est qu'au final, le Bitcoin va changer la manière de voir la vie et parfois même les comportements des Bitcoin maximalistes.
La plupart des personnes que j'ai interviewées m'ont dit cette phrase, c'est qu'en gros, le Bitcoin était leur professeur d'économie. Qu'en gros, en fait, grâce à cette crypto-monnaie, ils ont appris à mieux comprendre le système monétaire, l'inflation, tous ces sujets relatifs à l'économie qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude d'apprendre. Et donc, ça leur a forgé une opinion sur ce système. Enfin, sur le système monétaire, dont voilà, certains qualifient le système monétaire de système fiat en comparaison voilà, au système de la crypto-monnaie Bitcoin. Et puis, il y a aussi quelques petits comportements. Bon, certains peuvent penser que c'est voilà, des private jokes, mais de ceux qui sont partisans de manger beaucoup de viande parce qu'ils adhèrent à la crypto-monnaie Bitcoin. Oui, il y a des fans de viande, mais pas que. Hein. Donc, il y a certains qui m'ont dit non, mais je mange la viande et je mange aussi autre chose. Oui. Et puis, d'ailleurs, il y en a aussi qui vont aussi beaucoup porter certains vêtements d'une marque qui s'appelle Mahachi et qui a été fondée par Camélia. Et voilà, certains ont recours à cette société pour pouvoir s'habiller, participer au surfing Bitcoin. Donc, ils ont quand même leurs petites habitudes.
Bon, ils ont leurs petites habitudes, leurs petits codes vestimentaires, des goûts communs manifestement autour de la viande. Bon, oui, Sandrine papa. Rousseau, si vous nous écoutez, voilà. Attention, autour de cette communauté, on a alors les Bitcoin maximalistes passionnés, et c'est pas une tare d'être passionné. Puis il y a aussi dans cet univers des Bitcoin maximalistes des esprits très très radicaux. Il faut aussi le dire, et c'est ce qui ressort aussi de cette enquête que vous proposez, Pauline.
Il y a aussi ceux qu'on appelle les Bitcoin maxi toxiques. Là, il y en a plus qui adhèrent à toutes les théories du complot, anti-vaccin, anti-Europe, etc. D'ailleurs, au départ, il y en avait un qui voulait me parler, puis il a abandonné l'interview. Voilà, je pense qu'il s'est ravisé. Bon, dommage, ça aurait été intéressant quand même d'avoir son point de vue. C'est vrai qu'ils sont relativement agressifs aussi sur les réseaux sociaux pour tous ceux, en gros, qui ne cautionnent pas l'idée de cette crypto-monnaie Bitcoin.
Et qui n'adhèrent pas au maximalisme.
Voilà, ouais. Et qui n'adhèrent pas à cette philosophie, à ce mouvement. Il y en a certains qui en font les frais, comme par exemple la députée européenne Aurore Laluc, qui a aussi parlé dans le cadre de l'enquête pour notamment expliquer sa vision du maximalisme français, qui pourra être retrouvée dans le cadre de l'enquête.
Sébastien Gouspillou est à distance avec nous, considéré justement comme l'un des principaux Bitcoin maximalistes français. Sébastien, vous vous retrouvez dans ce portrait, cette enquête plutôt, parce qu'il y a plusieurs profils de Bitcoin maximalistes en France. Est-ce que l'un des profils dont Pauline nous parlait à l'instant vous semble correspondre à ce que vous êtes ?
Ah non, pas du tout. Hein. Moi, je mange très peu de viande. Je suis dans ma déconstruction à ce sujet-là. Je m'habille pas Bitcoin. Je vis normalement. Quant à la vision d'Aurore Laluc d'un maximaliste, elle a aucune idée de ce que c'est qu'un maximaliste. Elle risque pas d'en parler avec compétence. Elle en a jamais vu. Hein. Donc non, je me reconnais pas du tout. Et pourtant, moi, je suis considéré comme un toxique. Évidemment, sur les réseaux, je suis actif parce que il s'y dit beaucoup de choses. Et derrière la caution du Bitcoin, effectivement, il y a un paquet de shitcoiners qui vendent du casino, quoi. Hein, donc c'est pas du tout notre approche. Donc nous, on dénonce ça, on dénonce le fait de tout confondre, de confondre un système monétaire en devenir qui est une proposition extrêmement forte socialement. Et puis les déviances qu'on peut avoir avec des crypto-monnaies, voilà le grand jeu de casino qu'on retrouve sur Binance ou d'autres exchanges qui nous ne nous parlent pas du tout, quoi. Moi, je sais pas me servir de ça, et donc c'est pour ça qu'on peut paraître un peu agressif parfois, mais parce qu'on veut pas qu'il y ait d'amalgame entre le Bitcoin et la DeFi, c'est des choses très différentes.
On voit certains pays même devenus Bitcoin maximalistes. On pense par exemple au Salvador, qui a en tout cas adopté Bitcoin, Sébastien, comme monnaie légale. Le Salvador s'est jeté à l'eau, la République de Centrafrique a suivi. D'autres pays pourraient être ou seront tentés, d'après vous ?
Pas forcément. Pas forcément. Il y a des élus que ça intéresse, qui portent ce sujet dans leurs assemblées. Dans tous les pays, il y a une société civile qui s'intéresse à Bitcoin. Il y a des chambres de métiers, chambres de commerce, des agences de développement économique. J'ai discuté hier avec Samson Mo, donc c'est mon ami là qui travaille sur le bond au Salvador, le Vulcano Bond. Lui est en contact avec beaucoup de chefs d'État, de gouvernement, et actuellement il travaille avec essentiellement l'Amérique du Sud. Il m'a parlé du Guatemala, du Mexique, de l'Argentine et du Nicaragua. Nous-mêmes, on travaille avec une dizaine de pays, mais je ne sais pas pour autant si d'autres pays suivront exactement la voie ouverte par le président Bukele. Lui, le président Bukele, il parie que oui, hein, il a tweeté qu'il était certain que plusieurs pays allaient le suivre dans cette adoption. Moi, j'en sais rien.
Si le Salvador, dont le président en effet Bukele, pense que d'autres pays pourraient suivre son exemple, si le Salvador et la République centrafricaine restent isolés, restent les deux seuls pays à choisir de faire du Bitcoin leur monnaie légale, est-ce qu'on pourra dire que ce qu'a choisi le Salvador, cette stratégie du président Bukele, n'aura été qu'une simple vaguelette et qu'il n'aura finalement pas impacté la destinée long terme du Bitcoin, même si le Salvador l'a effectivement intégré comme monnaie légale?
Alors, pour moi, dans tous les cas, il aura beaucoup influencé sur Bitcoin. Que d'autres pays choisissent de rendre Bitcoin monnaie légale, c'est pas certain du tout. Hein. On voit la levée de bouclier des institutions financières comme le FMI contre la Centrafrique et contre le Salvador depuis cette adoption. Mais dans tous les cas, la décision de Bukele est intéressante. Elle a radicalement changé la donne pour les autres pays. Elle aura donné la possibilité à ces autres pays d'adopter Bitcoin sans modifier leur code monétaire et financier, sans passer par la loi en fait. J'explique. Aujourd'hui, un dirigeant crypto-friendly qui deviendrait chef d'État ou président ou premier ministre de son pays, il n'a pas besoin de déclarer Bitcoin monnaie légale pour lui donner ses lettres de noblesse. Il a juste à lui reconnaître son statut de devise étrangère, monnaie du Salvador. C'est à la portée de tout gouvernement qui se découvre Bitcoin compatible, sans qu'il ait à craindre les réprimandes ou les sanctions des organisations internationales et les articles scandalisés de la presse financière hein, qui ratent pas Bukele en ce moment. Et en plus, il se mettra à l'abri des sifflets des Bitcoiners eux-mêmes, qui sont toujours prêts à dégainer si un État tente de s'approprier Bitcoin, tente d'apposer son tampon à notre monnaie libre.
Enfin, au Salvador, quand même, Sébastien, les commerçants ont été obligés d'accepter Bitcoin sous peine de prison. C'est-à-dire que s'ils n'acceptaient pas Bitcoin dans les transactions, les commerçants risquaient la prison. On peut comprendre que ça ait un peu choqué quand même.
Oui, absolument, tout à fait. Voir Bitcoin frapper du caractère contraignant d'une monnaie légale, parce qu'en fait, le fait de pas d'aller en prison si on n'accepte pas la monnaie nationale, c'est le cas dans tous les pays du monde, hein, c'est quelque chose de normal. Mais de le voir ça s'appliquer à Bitcoin, de voir Bitcoin devenir un outil de l'État salvadorien, ça a pu désorienter une grande partie de mes collègues bitcoiners, hein, des maximalistes ou pas maximalistes. Mais ce qu'ils n'ont pas forcément réalisé à ce moment-là, c'est que le jeu en valait vraiment la chandelle, parce que ça ouvrait la voie à une reconnaissance tranquille et large pour les autres pays. Et c'était vraiment important, ça, pour Bitcoin. Je ne sais pas si vous avez vu que le Parti conservateur au Canada là, venait de désigner son candidat. Donc c'est Pierre Poilievre, il s'appelle. Vous avez vu passer ça sur BFM?
Oui. Pierre Poilievre, en effet. Alors on verra s'il candidate au poste de Premier ministre du Canada d'ici 3 ans, mais il représente désormais ce Pierre Poilievre, le Parti conservateur canadien. Et alors, vous nous en parlez justement, Sébastien, parce que ce Pierre Poilievre, est un bitcoiner notoire. Il a prononcé un discours remarqué sur la monnaie au Sénat canadien, ce qui pourrait aussi ouvrir des perspectives sur une future relation particulière entre le Canada d'une part et le Bitcoin d'autre part.
Exactement, et pour autant, c'est un Bitcoiner convaincu, hein, Pierre, mais pour autant, je ne suis pas certain qu'il va avoir la même démarche que Bukele et d'adopter Bitcoin comme monnaie légale. En fait, il n'en a pas trop besoin, quoi. Il peut avoir vis-à-vis de Bitcoin une politique extrêmement bienveillante et une fiscalité neutre sans même légiférer grâce au fait que ce soit la monnaie nationale au Salvador. C'est un peu ça mon idée.
Vous accompagnez justement, alors régulièrement, Sébastien, les États dans la mise en place d'outils de minage sur leur territoire et dans l'adoption des cryptos et notamment en l'occurrence du Bitcoin. Quand vous rencontrez les officiels étrangers pour développer le minage dans leur pays, vous leur apportez des solutions et des idées juste pour le minage ou vous essayez de les convertir à l'idée que le Bitcoin pourrait constituer leur future monnaie légale?
Alors ouais, nous quand on n'a pas l'idée de les convaincre d'accepter Bitcoin monnaie légale, c'est pas notre propos, hein. C'est pas notre propos. Ma mission à moi, c'est de les sensibiliser à l'existence d'une solution de stabilisateur de leur réseau électrique, de leur faire découvrir la batterie économique qu'est le mining. Et je sais que dès que les États minent, ils s'attachent à Bitcoin parce que c'est un actif qu'il crée en fait, hein. Donc il s'attache à Bitcoin et finissent par s'intéresser à sa proposition monétaire. Mais nous, on veut aller dans ce sens-là pour qu'ils s'y intéressent de manière intéressée justement.
Oui.
Donc, moi, je pousse pas l'adoption par l'État. Je m'inhibe pas pour que Bitcoin devienne monnaie légale partout. Non, c'est pas mon propos.
Et ça n'a pas non plus été votre propos auprès du président du Salvador, Nayib Bukele. Et si c'était à refaire, vous ne lui conseilleriez aujourd'hui pas de faire du Bitcoin une monnaie légale, Sébastien ?
Ah si, dans le cas du Salvador, si, parce qu'il a eu la prime au premier. Il a beaucoup gagné à adopter Bitcoin parce qu'il était le tout premier. Donc maintenant, les gens savent où est le Salvador. Ça a fait exploser le tourisme et ça a fait exploser la connaissance du pays, la popularité du pays. Donc pour lui, ça valait le coup. Mais cet effet first, il peut pas se reproduire avec les autres pays derrière. Et en plus, la plupart des pays ont leur monnaie. Hein. Le Salvador, c'était très particulier. Il avait que le dollar comme monnaie du pays. Donc les autres pays qui ont déjà leur monnaie n'auraient pas forcément grand-chose à gagner d'adopter Bitcoin comme monnaie légale, peut-être que des problèmes et peu d'avantages.
Oui, et pour l'instant néanmoins, pour le Salvador, le bilan est mitigé. Est-ce qu'on sera d'accord là-dessus? Fitch Rating, qui a dégradé la note du pays, estimant que pour l'instant les coûts de l'intégration du Bitcoin sont supérieurs aux bénéfices. On voit une population salvadorienne aussi qui a du mal à vraiment adopter le Bitcoin, alors que c'est une population dont le profil pourrait nous pousser à penser que l'adoption se fera rapidement. C'est une population peu bancarisée. Est-ce qu'on peut dire pour l'instant que le bilan est plutôt un peu décevant quand même?
Ah, pour moi, absolument pas, parce que des coûts jugés supérieurs aux bénéfices, par qui? Si vous demandez aux Salvadoriens, pour eux, le bénéfice est considérable. Alors, c'est un amalgame, hein, c'est-à-dire que le pays va beaucoup mieux à tout un tas de niveaux, notamment au niveau de la sécurité. Donc, les Salvadoriens sont reconnaissants à Bukele. Et pas forcément à cause du Bitcoin, mais c'est un ensemble de choses qui fait que les Salvadoriens, eux, sont contents. Alors, que les institutions internationales aujourd'hui se lamentent, se désolent du peu d'adoption des Salvadoriens pour Bitcoin, c'est assez cocasse, comme si ces gens-là avaient vraiment envie que ça se développe et que ça fonctionne. Mais en tout cas, croire que parce que les échanges en Bitcoin sont réduits dans le pays, l'adoption a échoué, c'est juste un malentendu, quoi. Ça voudrait dire que moi, mon adoption de Bitcoin n'est pas totale parce que je vis en euros, moi. J'achète mon pain en euros. Je dépense pas de Bitcoin. Personne ne dépense de Bitcoin en France. Or, on estime qu'il y a 8 à 10% de gens qui ont des cryptos en France.
Oui.
Donc, l'adoption n'a jamais été dépendante de la dépense en Bitcoin de la même manière que l'inclusion financière n'a jamais été conditionnée par les dépenses sur le compte en banque des gens qui venaient d'être inclus financièrement. C'est pas du tout le propos. Le propos de l'inclusion financière, c'est de donner un compte en banque à des gens de façon à ce qu'ils puissent s'en servir et de façon à ce qu'ils puissent faire de l'épargne. En cela, le pari de Bukele, c'est une inclusion financière record. C'est totalement historique. Il n'y a jamais eu quelque chose d'équivalent dans le monde.
Sébastien.
Donc, envisager que c'est un échec, non, c'est faux.
On est au bout, ça, c'est malheureusement. Certain. Sébastien Gouspillou, Big Block Green Services, merci de nous avoir accompagnés. Pauline Armandet, BFM Crypto, la newsletter à 18h chaque lundi. Merci beaucoup, Pauline.